Non, non, tu ne te trompes pas.
Bon.
On va voir ce qui me plante.
Mais vous voyez le temps qu'il faut pour vraiment entrer dans le sujet, quoi.
Ah oui.
Hein, il faut prendre le temps d'expliquer à droite, d'expliquer à gauche, d'expliquer en dehors, par-dessus, par-dessous.
Le tissage.
Voilà,
de se faire.
Le tissage, voilà. Alors, continuons. Si certains des premiers pères nient l'immortalité de l'âme par nature, s'ils la nient, ils fondent donc de manière claire la différence ontologique entre l'âme et l'esprit. C'est évident. Hein? Donc ça, c'est très important aussi. Donc, s'il y avait une âme, elle ne pouvait seulement être créée. Et si elle est créée, elle ne pouvait que mourir. Donc, si cette âme devait être, entre guillemets, immortelle, elle ne pouvait être immortelle que par grâce. Voilà. Donc ça, déjà, vous voyez, quand c'est en place, c'est déjà...
Juste une petite chose. Est-ce que ça veut dire, je sais pas, que ce paradigme dualiste est quelque chose qui n'est pas juste?
Ben oui, pour moi oui.
Voilà.
Pour moi oui. Mais parce comme c'est pas dogmatisé, voilà. Me... Ah ben non. Mais c'est pas dogmatisé dans l'Église, donc je peux pas vous dire. C'est pas dogmatisé. Mais pour moi c'est clair. C'est, on est dans une erreur grave. Alors pour ceux qui veulent avoir un livre, bon j'en parlerai tout à l'heure. Si j'oublie, hein, c'est Fromaget. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que c'est un livre qui est très facile à lire, qui doit coûter entre 5 et 6 euros, enfin une misère. Qui est un petit livre, très facile à lire, complètement vulgarisation, mais qui explique bien en développant ce que je vais vous dire maintenant. Tatien. Donc Tatien, vous connaissez tous Tatien, bien sûr, par cœur. Deuxième siècle. Il est du côté des Syriens, des Syriaques. Il pensait que l'âme n'était pas immortelle en elle-même. Voilà ce qu'il dit. L'âme n'est pas en soi immortelle, ô grec. Donc il s'adresse aux Grecs. Ô grec, l'âme n'est pas en soi immortelle. Mais il est possible pour elle de ne pas mourir. Donc, on reprend la même chose que ce qu'on avait avec Théophile tout à l'heure. Alors, chez Tatien, vous savez, Tatien, il n'a pas toujours été toujours complètement aligné au niveau des choses de l'Église, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, même pour ceux qui ont eu quelques déviances, entre guillemets, ce qui est important, c'est de prendre le meilleur d'eux, voilà, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont apporté. Il dit quelque chose qui était un petit peu curieux, mais que je vous dis quand même. La pneumatologie de Tatien, donc, hein, l'esprit, distingue deux espèces d'esprit dans l'homme. L'un, il l'appelle l'âme, et l'autre, elle est supérieure à l'âme, et elle est l'image et la ressemblance de Dieu. Donc nous, on dirait, l'un, il l'appelle l'âme, et l'autre, l'esprit. L'un et l'autre se trouvaient chez les premiers hommes, de façon, écoutez bien ça, c'est très intéressant, qu'ils fussent en partie matériels et en partie supérieurs à la matière. Donc ça, c'est beau aussi. Hein, ça nous donne un éclairage. Et Tatien maintient que l'âme ne peut pas échapper à la mort si elle n'est pas sauvée par l'esprit. Et ce que dit Tatien est très important là parce qu'il explique que ce n'est pas l'âme qui a sauvé l'esprit, c'est l'esprit qui a sauvé l'âme. La lumière a reçu les ténèbres, et en tant que lumière de Dieu, elle est verbe, et l'âme ignorante est ténèbre. C'est pourquoi l'âme livrée à elle-même, la nature ne peut pas accueillir ce qui est de l'esprit, le psychisme ne peut pas accueillir ce qui est de l'esprit, dit saint Paul. L'âme livrée à elle-même s'abîme dans la matière et meurt avec la chair. Mais si elle possède l'union avec le divin et avec l'esprit de Dieu, alors elle a de l'aide. Elle monte vers les régions où la guide l'esprit Et c'est en haut qu'elle a sa demeure, tandis qu'en bas, elle a son origine. C'est en haut que l'esprit a sa demeure, tandis qu'en bas, elle, elle a son origine, l'âme. D'accord ? Et ce que dit Tassien, c'est que l'esprit doit pneumatiser l'homme. On n'est pas dans les matelas pneumatiques, hein, d'accord ? L'esprit doit pneumatiser l'âme mortelle par nature, qui va s'élever grâce à lui. Et donc, si elle s'élève, l'âme, ça veut dire que mortelle par nature, grâce à l'esprit, l'âme va pouvoir effectivement devenir immortelle. Donc c'est bien par l'esprit de l'homme que l'âme, l'esprit de l'homme, que Dieu opère la spiritualisation de l'âme. Mais si la spiritualisation ne se fait pas, alors l'âme abandonne l'homme à son état naturel. Vous n'êtes que chair, dit saint Paul. Et il reste à son état psychique et n'accomplira jamais son parachèvement. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'importance de ces questions. Alors, Justin, il est aussi du IIe siècle. Et Justin, il est très intéressant parce que c'est un païen qui était philosophe. Donc, il était habité de toute cette pensée philosophique grecque. Et il devient chrétien. Pourquoi il devient chrétien? Je ne sais pas si vous avez lu le dialogue avec Tryphon. Donc toute la première partie, il raconte une rencontre qu'il a eue avec un vieillard. Et il dit à ce vieillard à quel point il est insatisfait de cette philosophie qui ne le nourrit pas, qui ne lui donne pas les réponses qu'il cherche. Et ce vieillard le met sur la piste de l'évangile. Il ouvre l'évangile et il dit « Un feu !» a pris mon cœur. J'ai ouvert ça. Quelqu'un qui est prêt et qui est mûr, vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Donc mûrissons rapidement parce que le feu va nous prendre. Il y a résurrection pour le corps, même s'il a succombé, car l'esprit, lui, ne succombe pas. Dans le corps, il y a l'âme. Le corps ne peut pas vivre sans l'âme. Quand l'âme l'a quitté, il n'existe plus, car le corps est la maison de l'âme. Et l'âme, celle de l'esprit. Ces trois éléments seront sauvés. Chez ceux qui mettent en Dieu tout leur espoir et leur foi absolue. Voilà, donc on est sauvé si on met toute notre foi, tout notre espoir, si on mise tout sur Dieu. Et c'est là où c'est fascinant pour nous, justement, particulièrement la vie monastique. Vous savez que dans l'orthodoxie, la vie monastique est vraiment, l'exemple. Je ne veux pas dire le modèle, parce que un exemple. Et la tradition ascétique monastique, elle est pour tous. Ce n'est pas les moines et puis les autres se débrouillent. Elle est pour tous. Elle est adaptée aux conditions d'une mère de famille, etc. Mais c'est la même. Elle est pour tous, c'est la même. Et pourquoi c'est fascinant? C'est parce que le moine, il a tout misé. Le jour où il perd la foi, il perd tout. Mais tout, absolument tout. Il n'a plus rien. Il n'a pas de parents, il n'a pas d'enfants, il n'a pas de femme, de mari. Il perd tout. Il est... Parce qu'il a tout misé. Il a mis toute sa vie là-dessus. Boum. C'est du 100%, quoi. Et c'est ça qui est fascinant. Et donc, c'est pour ça que ça peut être un exemple. C'est-à-dire que, à la mesure de chacun, comment je peux tous les jours miser un peu plus sur Dieu, sur l'Église, sur les sacrements, etc. Et donc, si nous revenons à ce qu'on nous avions dit la semaine dernière, que le corps n'est qu'une prison pour Socrate, Platon et tous les platoniciens, le corps n'est qu'une prison pour l'âme, mais qu'est-ce que dit Paul ? Le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, vous voyez toute la différence, quoi. Et c'est intéressant de mettre ces deux choses en parallèle. Le corps est une prison, le corps est le temple du Saint-Esprit. D'où cette illumination aussi corporelle. D'où, chez nos saints, et on a certains parmi nous, on en a connu, ne serait-ce que Père Placide, qui était quand même une très grande figure, même si on n'a pas encore complètement canonisé, on s'approche, ou je pense à Père Victor, moi. Une des dernières fois que j'ai vu Père Victor, je me suis assise à côté de lui. Ça irradiait du Saint-Esprit, quoi. Voilà. Ben, vous voyez ce que je veux dire. Et là, on dit, ben, le corps, c'est le temple du Saint-Esprit, parce que... Et pourquoi, d'ailleurs, entre guillemets, on vénère les reliques? C'est bien parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Et que c'est pas un mort qu'on vénère, c'est pas des os qu'on vénère. C'est les énergies incréées qui sont passées à travers ce corps. C'est pas rien, ça veut dire qu'on touche Dieu. C'est pour ça qu'on s'approche de si près, parce que sinon on pourrait le garder à distance en disant, bon, je vénère, mais d'un peu loin, quoi. Non. On va aller au plus près, parce qu'on veut les capter, ces énergies, parce que c'est les énergies divines qui passent à travers l'os, à travers le corps, à travers... C'est quand même pas rien. Mais moi, c'est des expériences qui sont inscrites, quoi, pour toujours. Si l'esprit habite en vous, alors celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts appellera à la vie aussi vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. Donc l'âme qui meurt, la psyché qui meurt, le corps qui meurt, l'esprit les appellera à la vie par l'esprit qui habite en nous. Voilà, on a tout compris là. Paul, Romains 8, 11.
Est-ce que ça rejoint les arts de l'esprit?
Je ne suis pas sûre. Peut-être, mais je ne suis pas sûre. J'ai peur qu'on soit sur un autre registre. Je voudrais retrouver le contexte. On regardera peut-être tout à l'heure. D'accord? Alors maintenant, je voudrais essayer d'entrer dans une petite chose un tout petit peu différente, qui est une image. Donc l'image, il faut la prendre comme une image. Hein. Il ne faut pas tout coller. C'est comme une parabole. Hein. On ne peut pas tout coller. Et cette image, elle est donnée justement par Michel Fromager, que Jean Bobok reprend dans son livre. C'est l'image de la métamorphose. Michel Fromager va donner des exemples tirés de la vie biologique, notamment des animaux volants. Il cite la métamorphose des chenilles en papillons, des larves en cétoines, des libellules en cigales, de têtards en grenouilles, en trillons, en salamandres. Il y a une métamorphose. Et il prend cette image pour dire la métamorphose va délivrer le sujet caché dans la larve. Donc la métamorphose, on est dans une larve, on est dans une chenille, on est dans un têtard, et il y a une métamorphose, et le vrai sujet, parce que là on est chez des animaux, donc on ne peut pas dire autre chose, hein, le vrai sujet s'ouvre après la métamorphose, après la mue. Ça devrait être la même chose pour l'homme qui passe de la vie psychique à la vie spirituelle. Et l'auteur, donc Michel Fromager, fait cette remarque très intéressante. En latin, écoutez bien, en latin, le mot larva et persona peuvent être synonymes. Et l'être parfait qu'elle délivre, donc de larve à cet être qu'elle délivre, s'appelle chez les insectes imago. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de quoi faire des imago. Alors, quand on regarde la métamorphose qui entraîne des modifications, ça, c'est aussi des modifications de mode de vie. La larve du papillon est terrestre. Celle de la libellule est aquatique. Celle de la cigale, elle est sous terre, souterraine. Mais les trois imagos sont aériens. Vous sentez les images? Je pense qu'elles sont extrêmement parlantes. Donc, ces métamorphoses sont des vraies mutations, mais le patrimoine génétique reste le même. Le vivant change d'aspect et de mode de vie, mais c'est le même vivant. Et il trouve une autre spatialité dans ses mouvements. Il trouve... vous étiez sous terre et puis vous étiez une petite chenille et vous devenez un papillon. Franchement, les papillons, c'est magnifique, quoi. Une chenille, je ne sais pas si on est très attiré. Il y en a des belles. Bon, très bien. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas abouti. Hein? C'est comme la statue pour l'artiste. Vous avez un bloc de marbre, et puis vous avez un sculpteur qui arrive. Il faut travailler de manière à ce que ce bloc devienne une statue. Donc, quand vous regardez la chenille et le papillon, le passage de l'un à l'autre va nécessiter un travail de transformation, une métamorphosis, qui permet de passer d'une certaine réalité à une autre réalité. Et donc, on passe d'un quelque chose de naturel à quelque chose de perfection, à une perfection, à une totalité perfectionnée de l'être. C'est ça, à ça qu'on est appelé. Il y a du boulot, hein. Et c'est ce qu'on appelle la seconde naissance. Alors, moi, volontiers, j'appellerais la troisième naissance, parce qu'on a la naissance terrestre, la naissance du baptême, et puis la naissance dans l'esprit. Bon. Mais on peut dire la deuxième naissance dans le sens où la naissance du baptême est un art, c'est les arts que Dieu dépose en nous pour cette naissance de la personne. Donc la première naissance de l'homme est celle de l'homme psychique, biologique. Et donc cette première naissance, c'est un corps et une âme. Le nourrisson, il a une psyché qui est très développée déjà, puisqu'il a le contact avec la mère, etc. Mais la seconde, et ça c'est Jean, quel chapitre ?
C'est Nicodème.
Chapitre.
6, c'est 4, 3, 2, 1,
partez. Je vous souffle là, franchement. Là, franchement, je vous souffle très clairement, je n'ai même pas me dire. Ne t'étonne pas que je t'ai dit il vous faut naître d'en haut. Je vais reprendre un peu avant. En vérité, je te le dis, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous vous souvenez que les apôtres, les premiers apôtres, ils avaient connu que le baptême de l'eau, le baptême de Jean. Ils disent, ah non, mais ça ne suffit pas, il faut le baptême de l'esprit. Et ce n'est pas pour rien que pour nous, orthodoxes, on garde tout dans la même célébration, hein, le baptême d'eau et la chrismation. C'est bien parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, quoi. C'est une unité intrinsèque. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Là, il parle presque comme saint Paul. Donc la chair, chez Jean, il y a presque du même ordre que saint Paul. C'est le corps et la psyché. C'est l'homme psychique. C'est l'homme charnel. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends le... Oh, le bruit, ça ne me plaît pas. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi né de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, alors Nicodème, il dit, mais je comprends rien, là. Comment ça peut se faire ? Ah, bon. Et il dit, mais est-ce que l'homme, il peut rentrer dans le sang de sa mère ? Bon, voilà, donc lui, il est... Bon, voilà, c'est normal. On est avant la résurrection, avant la Pentecôte. C'est normal. Bon. Mais ça montre le vent souffle où il veut et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ça veut dire qu'il y a bien une naissance de l'esprit dont nous avons les arts. Mais vous savez ce que dit Marc le Moine. Le baptême est parfait. Mais il ne rend pas parfait l'homme comme ça tout seul. Si tu n'observes pas les commandements, si tu ne... Si, etc. Puis il aurait fait une liste. Donc ça montre que c'est le Christ et Dieu, ce n'est pas la petite baguette magique, vous avez votre baptême et puis c'est bon, quoi. Ce n'est que des arts. Et donc, ces arts, il faut les faire fructifier. C'est comme les talents. Donc on a un travail. C'est le travail du sculpteur. Et on en coupe. Voilà, et on y va, quoi. Il faut y aller. Des fois, ça fait un peu mal. Bon. C'est là, c'est le travail aussi de Jean chapitre 10, C'est 10 ou 15, non, c'est 15. Jean chapitre 15. Je suis le cep.
Ah oui, vous êtes les sarments.
Et vous êtes les sarments. Et mon père est le vigneron. Et il retranche tout sarment qui ne porte pas de fruits, afin qu'il en porte davantage. D'accord ? C'est cette idée-là. Couper tout ce qui est... tout ce qui est un peu trop psychique et charnel. Et là, cette seconde naissance va permettre à l'homme de trouver sa condition d'achèvement qui va dépasser sa condition naturelle et psychique. Or, normalement, cette seconde naissance doit toucher et l'âme et le corps. C'est obligé. Et c'est là où on perçoit qu'on est dans une seconde naissance. C'est qu'il y a une transformation. D'ailleurs, on le voit, le visage des personnes ne sont plus les mêmes, on le voit bien. Quand j'ai envoyé les photos à quelques-uns de mes proches dans l'église orthodoxe, des photos des funérailles de Père Placide, il y a une personne que je ne vais pas citer, voilà, pour être discrète vis-à-vis d'elle, qui me dit oh, qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'est illuminé, c'est lumineux ces photos. Et elle me dit, on est passé voir Père Placide la nuit de Noël. Donc, elle a une maison de campagne qui n'est pas très loin, elle y va régulièrement. Et il était lumineux, il était mais resplendissant, alors qu'elle le connaît depuis 50 ans. Hein. En plus, elle, c'est une. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Extraordinaire, c'est voilà. Vous arrivez au sommet de votre lumière, ben vous pouvez partir, quoi. Vous êtes l'homme accompli, l'homme spirituel accompli. Alors, qu'il y a encore des restes de psychique, c'est normal, parce que je veux dire, vous savez ce que dit Grégoire de Nice, il dit que même dans l'au-delà, on continuera de s'accomplir, c'est-à-dire de vivre la théosis, de vivre la communion complète, la divinisation complète avec le Christ. Et donc, il faut l'éternité pour ça. Donc, comme on continuera tout le temps, qu'il reste encore un peu de psychique, c'est normal, je veux dire, on ne peut pas l'éliminer complètement, hein, mais que ça remplisse au maximum, voilà, cette métamorphose, cette vie dans l'esprit qui nous irradie, quoi.
Est-ce que c'est ça qu'on peut appeler vrai homme ?
Homme vrai, oui. Vrai homme.
Vrai homme et oui. Vrai Dieu, tu vois.
Ah bah, de toute façon, le Christ...
Est-ce que c'est ça la définition ? De vrai homme.
Bah, c'est-à-dire que quand on dit vrai homme, oui, mais quand on dit vrai homme, vrai Dieu, là, on est dans le concile, si tu veux, on est dans la définition conciliante. Moi, je dirais, je ne sais pas s'il y a cette notion de vrai homme ou homme véritable dans les épîtres de Paul, ou je ne suis pas sûre. Voilà.
Mais si veut. L'interrogation que j'ai.
Oui. Mais si veut les concepts. Oui. Mais les concepts théologiques sont très précis. C'est-à-dire que. Dans l'Église, quand on parle de vrai homme, on parle de vrai homme, vrai Dieu, donc ça s'adresse qu'au Christ. Voilà, tu vois, c'est ça que je veux dire.
Ah, bah, merci.
Voilà. Parce que c'est un concept très précis. Maintenant, on peut dire, celui-là, c'est un homme qui est vrai. Voilà, qui est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une vérité. C'est ce que disait par rapport à Olivier Clément, ce qu'on disait tout à l'heure, l'écart entre la bouche qui est du dehors et le cœur. Voilà. Donc celui qui est vrai, c'est celui qui est en adéquation complète. Mais vous voyez le travail qu'on a à faire, quoi. Mais moi, je vous parle, mais vous rendez compte la honte que j'ai, quoi. Parce que moi, j'y arrive pas. Donc, je vous parle de quelque chose que je ne sais pas faire. Donc, vous imaginez, quoi. C'est la honte.
Mais
c'est pour dire aussi que ce que je vous dis, je me le dis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un d'autre qui le dit à nous. Voilà.
À travers toi.
Voilà.
C'est pour ça que c'est utile que tu viennes.
Non, mais c'est juste, voilà, c'est juste pour montrer cet écart.
L'homme accompli, l'homme achevé.
L'homme achevé.
C'est
voilà.
Pour ça que je...
L'homme achevé, je pense que c'est mieux.
Une extension.
Ouais, l'homme achevé. L'homme achevé qui est tendu vers la théosie, c'est-à-dire la divinisation. Voilà.
Il vaut mieux qu'on parle d'homme achevé que d'homme augmenté, comme en ce moment.
Ah bon ? Ok.
Oui, c'est la mode, avec tout ce qui se passe au niveau de la du transhumanisme.
Si je vis, dit Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Bon, d'ailleurs, Cabasilas, dans la vie en Christ, hein, il développera énormément ça, quoi. Donc cette métamorphose, c'est aussi une question de maturité. Par exemple, le nourrisson ou le jeune enfant ne peut pas spontanément faire la différence entre la pensée, les choses, le rêve et la réalité. Il ne fait pas la distinction entre le psychique et le spirituel. Il ne peut pas. Donc il y a bien aussi une maturité à la fois humaine et biologique, tout simplement. Donc concevoir cette différence demande une certaine maturation et une éducation. Plus on va éduquer un enfant jeune à bien faire la distinction entre son psychisme, son désir, ses colères, ses... Voilà. Et puis, quand il est habité, voilà, quand il sent que Dieu l'habite, voilà, et qu'il a, il a une autre attitude, plus on va lui apprendre tôt, plus il pourra être un homme achevé, plus il va mûrir dans ce sens-là, quoi. Alors, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, et puis on essaiera de faire un petit exercice après. Au mont des Oliviers, le Christ ne dit pas « mon âme, mon esprit est triste en mourir », il dit « mon âme est triste en mourir ». Donc on est bien dans cette partie psychique où il y a une tristesse. Ce qui veut dire aussi, si le Christ le dit, c'est que le Christ aussi a sa partie psychique, il n'est pas exempt. Et donc c'est important parce que quand même, si le Fils de Dieu, il a pris toute notre nature, il a pris le corps, mais il a pris la psyché, avec ce qu'il y a de blessé dans la psyché. Et même si le Christ est sans péché, il hérite d'une nature blessée, puisqu'il va mourir. Alors qu'il n'est pas fait pour mourir, pas plus que nous. Et donc il a hérité d'une psyché blessée, donc il y a une tristesse. Et une tristesse qui d'ailleurs nous semble normale au niveau de l'humanité. Mon âme est triste à en mourir. Voilà.
Mais après, sur la croix, il va dire « Père, entre tes mains,
je remets mon esprit. » Voilà. Donc, entre ses mains, il ne remet pas l'âme, il remet l'esprit, parce que l'âme, c'est la chair, c'est l'homme de chair. Il pousse un grand cri et il remet son esprit. Et vous savez, chez Jean, je vous l'avais peut-être déjà dit, c'est marqué littéralement en grec, il transmet l'esprit. Il transmet l'esprit. C'est pour ça que certains pères vont dire que la première Pentecôte, c'est au pied de la croix. Puisque Jean et Marie reçoivent pour la première fois l'Esprit Saint au pied de la croix parce qu'il transmet l'Esprit. D'accord ? Le proto-martyr Étienne, ce proto-martyr, moi, c'est quelqu'un. Étienne, c'est quelqu'un. Vous savez, il est accusé, attaqué, et puis il est lapidé par jet de pierre, il ploie les genoux, et il invoque le Christ et il dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Pareil. Donc, l'esprit va à Dieu, le corps et l'âme, il meurt. C'est pas important, puisque de toute façon, tout ça va être ressaisi dans la résurrection. Ok ? Alors, voilà ce que dit Origène. Donc, je crois que vous l'avez mis aussi, ça. Il me semble que je vous l'ai mis. Oui ? Qu'est-ce qui veut nous le lire ?
On peut observer que quand l'Évangile parle d'âme du Sauveur, autre est ce qui lui est attribué avec le mot âme, autre est celui et ce qui lui est attribué avec le mot esprit. Lorsque l'Évangile mentionne quelque passion ou trouble, il emploie le mot âme, comme dans « maintenant, mon âme est troublée, mon âme est triste jusqu'à la mort, et personne ne m'ôte mon âme, mais c'est moi qui la dépose. Mais ce que le Christ confie aux mains du Père, ce n'est pas son âme, mais son esprit. Et lorsqu'il dit que la chair est infirme, il ne dit pas que l'âme est prompte, mais que l'esprit est prompt. D'où il semble que l'âme soit quelque chose d'intermédiaire entre la chair infirme et l'esprit prompt. Origène.
C'est clair quand même. Alors on va expliquer quand même, mais c'est quand même assez clair. Alors, là où je voudrais dire juste un petit mot. En français, nous n'avons pas « personne n'ôte mon âme, c'est moi qui la dépose », nous avons « personne ne m'ôte la vie ». Donc ça correspond bien à ce qu'on disait. Nefesh, le premier niveau d'âme, c'est la vie. Personne ne m'enlève la vie, c'est moi qui la donne. Bon, il y a plusieurs traductions, je la dépose, je la donne, bon. Voilà. Donc ça, c'est très important. Hein, donc et derrière ce mot, il y a psyché. Ok ? Bon. Et donc, quand il remet son esprit, ou quand il dit, par exemple, que la chair est infirme, il ne dit pas que l'âme est prompte, mais que l'esprit est prompte. Alors là, ça, c'est très, très important, quoi. Ça, c'est très intéressant, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas... l'esprit est prompt, quand il dit... Pendant la...
Les tentations.
Non, c'est pendant le grand discours après la scène. Comment on appelle ça? La prière sacerdotale. Oui, non, oui. Je ne me trompe pas. Vous voulez qu'on recherche? Ça serait bien d'avoir le contexte. On va essayer de le chercher. Attendez. Alors, je vous conseille d'aller regarder entre 14 et 17 chez Saint Jean, et je vais essayer de le rechercher ici. Ouais, chapitre 15, oui, c'est possible. Oui, c'est très possible. Juste pour avoir le contexte, ça va nous aider.
L'esprit est ardent, mais la chair est faible.
Oui, c'est ça.
Non, je ne l'ai pas, mais c'est juste.
Hein?
Je n'ai pas la référence. Mais...
15, c'est Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron.
Demeurez ici éveillé.
C'est pas moment ça. Où tous les apôtres dorment, s'endorment.
Oui, c'est ça. Oui, c'est Gethsémani, oui. Exact. Alors, est-ce que c'est chez Jean? Pas nécessairement. Matthieu 26, 41 et Marc 14, 38. Donc Matthieu 14, 38. Chair est faible.
L'esprit est ardent, mais la chair est faible.
Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, je vais regarder quand même. Marc 14, 38. Ok. Alors, donc ce qui est important à comprendre là, c'est que effectivement, le Christ ne dit pas la psyché est ardente, la chair est faible. Et là, on rejoint ce que je vous ai dit depuis le début, c'est que quand Jean ou certains évangélistes comme Matthieu ici et Marc emploient le mot chair, c'est pas le corps, c'est l'homme charnel, c'est-à-dire dans ses deux composantes, le corps et la psyché. Donc la chair est faible, c'est-à-dire voilà, toute cette composante de l'homme qui est dans son humanité, qui est dans sa limite, qui n'arrive pas à se relier. Et l'esprit, lui, il peut faire quelque chose. Il est ardent, il est plein d'ardeur. Alors quand il dit que il semble que l'âme soit quelque chose d'intermédiaire entre la chair infirme et l'esprit prompt, c'est intéressant aussi. Donc ça, c'est un des points très importants d'Origène, qu'il a transmis d'ailleurs à certains pères après lui, c'est que pour lui, la psyché, elle est intermédiaire, je vous l'avais dit un peu la dernière fois, intermédiaire entre le corps et l'esprit. Pourquoi ? Parce que les informations qui nous viennent de l'extérieur, par les sens, par l'intelligence, tout ça, c'est de la psyché. Bon. Et donc, selon qu'elle s'oriente, elle va pouvoir soit emmener toute la personne dans quelque chose de charnel et de psychologique, soit emmener toute la personne vers quelque chose de spirituel, selon comment elle va le recevoir et elle va l'orienter. Et c'est la raison pour laquelle les pères parlent aussi des sens spirituels. C'est-à-dire que plus on va affiner sa sensibilité, qu'elle soit auditive, qu'elle soit olfactive, qu'elle soit de la vue, ils disent que chacun des sens correspond à un sens spirituel intérieur. Et on le sent bien, en fait. Quand on arrive à toucher quelque chose de la vie divine, on sent bien qu'il y a quelque chose de nos sens qui sont exercés. Mais ce n'est plus tout à fait les mêmes. Et je crois que c'est dans ce sens-là que Origène, si on peut le comprendre, il faut... Mais je peux vous dire que quand je vais arriver là-haut, j'aurai pas mal de questions à poser à plusieurs. Si on peut le comprendre, voilà. Bon, voilà. Donc, effectivement, il peut y avoir, à un moment donné... Donc on a bien vu la proximité entre l'âme et le corps, on l'a bien vu, hein, l'âme charnelle, l'âme psychique. Mais il peut aussi y avoir une proximité entre la psyché et l'esprit. Puisque, voilà, puisque, je veux dire, bah, ne serait-ce que quand on reçoit les sacrements, je veux dire, on les reçoit bien aussi sur le plan psychique, on les reçoit dans notre corps, on les reçoit, bon, je veux dire. Donc, il y a bien une réception par les sens, par la connaissance, le fait de lire, pour essayer d'éduquer sa manière de vivre en tant que chrétien. Enfin, il y a plein d'éléments. Enfin, et donc, il y a bien aussi, quelque part, de la psyché qui peut être du côté de l'esprit. Et c'est ça qui fait que, pour Origène, c'est un peu entre les deux. Et c'est vrai qu'il y a aussi... et c'est pour ça qu'on peut confondre facilement le psyché et l'esprit à cause de ça, à cause de cette proximité. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'il y a une certaine proximité, mais il n'y a pas de continuité ontologique. C'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas de continuité ontologique. La continuité ontologique, c'est entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Et c'est là où il y a... Et ça, c'est très important. Une fois que c'est inscrit dans notre... Voilà, en nous, là, on a compris quelque chose. Alors ensuite, cette non-continuité ontologique va marquer le fait que l'esprit est une vraie... une vraie partie de l'homme avec sa propre ontologie, mais tout le temps en dialogue, et avec la psyché et avec le corps. Et non seulement en dialogue, mais il essaie d'infuser, il va essayer d'infuser ce qu'il reçoit, il faut que ça passe. Mais je pense que c'est cette non-continuité ontologique qui fait que c'est difficile. Comme si, je dis bien comme si les ponts étaient un peu coupés, ou les ponts étaient un peu... Alors, il y a un décalage. Alors certains disent, c'est intéressant aussi ça, que chez l'homme, le corps et la psyché est plus relié, ça marche plus ensemble, et puis l'esprit est un peu décalé, et que chez la femme, il y aurait le corps et la psyché et l'esprit. Voilà. Bon, certains disent comme ça. Bon, je ne sais pas si on va dire jusque-là, mais ça peut montrer aussi, bon, moi je suis convaincue que la femme, si elle a quelque chose qui semble... qui semble, entre guillemets, plus spirituel. On dit toujours les femmes, elles sont plus spirituelles. C'est... Surtout sans curé.
ça serait une lecture.
Ça serait une lecture, voilà. Bon, elle est ce qu'elle est. Hein.
Ce qui rejoint la formation d'Ève au travers du côté d'Adam.
Voilà.
Je trouve que ce serait logique.
Voilà, ouais. Et aussi, le fait que la femme, elle porte, qu'elle le veuille ou non, un utérus, et que l'utérus est le rerem, et que le rerem, c'est la matrice divine, c'est la miséricorde. C'est le même mot pour dire miséricorde. Comme si la femme porte le nom même de Dieu, qui est le nom miséricordieux. Voilà, le miséricordieux. C'est hyper fort, quoi. Enfin, moi, je sais que quand j'avais découvert ça il y a 25 ans ou 30 ans, oh, j'étais en admiration, quoi. Je porte le nom de Dieu, quoi.
Ça vient de où l'histoire de la femme qui porte c'est parce que
l'utérus se dit rerem.
Non, mais avant, tu dis que chez l'homme, ce serait plutôt donc.
Non, ça, j'ai dû le lire quelque part, je sais pas où. Ça, je me souviens plus. J'ai lu quelque part. Je sais pas si c'est pas super serré l'argentier. Je sais plus. Je sais plus. Voilà ce que dit Jean Bobok. Si c'est à ses fruits qu'on reconnaît l'arbre, ainsi reconnaîtra-t-on ce qui est de l'esprit par les fruits qui mûriront avec le temps et qui seront frappés au coin de permanence, d'unité, d'immuabilité, tandis que ce qui relève de l'âme et du psychisme reste marqué d'inconstance, d'instabilité, car il n'y a de certitude, exemple de doute, ni d'amour, toujours égal. Donc cette phrase, elle est très importante. Je vais l'expliquer mieux. Donc là, c'est des mots qu'il faut peut-être qu'on note, parce que je voudrais qu'on travaille là-dessus. Donc, les fruits mûrissent avec le temps. Donc ça veut dire que notre être spirituel, c'est toute notre vie qui va pouvoir se déployer en nous. Si nous travaillons bien, comme le sculpteur a enlevé ce qu'il faut enlever. Ça mûrit avec le temps. Et comment on les reconnaît? Parce que les fruits de l'esprit portent le nom d'unité, d'immuabilité, de permanence. Mais il y en a d'autres, hein. Vous savez, unité, immuabilité, permanence. Il y en a d'autres. Il suffit de lire Galates. Les fruits de l'esprit sont, allez-y, joie, longanimité, charité,
patience,
maîtrise de soi. Saint Paul, il les énumère. Hein, donc. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va manquer de patience, qu'on va manquer d'unité intérieure, mais d'unité dans la communauté, d'unité, ou qu'on va diviser, qu'on va manquer de permanence. Celui-là, je l'aime, et puis 3 mois après, je ne l'aime plus. Donc, là, c'est un signe que... Voilà. C'est... Tout ce qui est de l'ordre de la psyché, ça bouge. Et d'ailleurs, c'est tellement fort que les Juifs disent une chose que je trouve extraordinaire. Ils disent, pourquoi pour nous, c'est la halakha qui est le plus important, la halakha, c'est-à-dire toute la jurisprudence de la conduite. Comment un Juif doit se conduire, dans les moindres détails. Comment il lasse ses chaussures le matin en se levant. Non mais je veux dire, ça va jusque-là, quoi. Je vous promets. Comment il s'habille, comment il va respecter le Shabbat, etc. Pourquoi ça c'est ? Parce qu'au moins, une fois qu'on a pris l'habitude de faire quelque chose, ben on le fait. Et les idées, elles peuvent changer, c'est pas grave. Alors, avec le risque du truc de routine, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est très intéressant, c'est que les idées, on sait bien, ça passe. Ah ben on pense à un truc, et puis le lendemain, on pense à autre chose, et puis le surlendemain, et puis si c'est pas le surlendemain, c'est 2 mois plus tard, mais enfin, c'est pareil, quoi. Aux yeux de Dieu, 1 mois, 2 mois, ou 1000 ans sont comme un jour, donc bon, on peut y aller, quoi. Ça change tout le temps. Tout le temps. On n'est pas fichu de dire, celui-là, je l'aime, et je l'aimerai toujours, même s'il me fait une crasse. On n'est pas fichu de faire ça. On n'est pas fichu, on n'est pas capable. Je l'aime parce que vraiment, c'est le bonheur, on vient de se rencontrer, c'est merveilleux. Et tout. Puis alors, 2 ans plus tard, voilà. Et c'est pour ça aussi que, pour moi, si la vie monastique est un super exemple, le couple qui est là depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est un super exemple aussi. Parce que qu'est-ce qu'ils en ont traversé, quoi. C'est sûr qu'ils en ont traversé. Et qu'après, à 70 ans, 80 ans, ils se disent qu'ils s'aiment comme à 20 ans. Mais vous imaginez cette permanence à travers les aléas, bien évidemment, de la vie, de... mais quand même. C'est-à-dire qu'ils sont allés plus profond, ils ont laissé passer les aléas, ils sont allés plus profond, ils sont restés dans cette nappe phréatique. Je t'ai dit oui, il y a 50 ans, 60 ans, je te dis oui aujourd'hui. Et finalement, je t'ai toujours dit oui. Même s'il y a eu plein de... Voilà, plein de trucs en surface. Mais c'est pas grave. Le fond, c'était ça que je voulais, quoi. Ben ça, c'est vachement fort. Pour moi, c'est un super exemple, quoi. Très, très profond, ça. Donc, ça monte. Par contre, le psychique, c'est l'inconstance, l'instabilité, le doute, l'inégalité d'humeur, etc. Voilà, ça, c'est le psychique. Ça, on a des points de repère, là. C'est quand même assez facile. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament le sait tellement que quand on parle d'amour, hein, le grand amour, etc., eh bien, les évangiles distinguent plusieurs formes d'amour. Ils distinguent l'amour d'amitié, qui peut être psychique, qui s'appelle philéo, et l'amour immuable, l'amour christique, qui est l'agapo, agapé. Donc, si l'évangile lui-même le distingue, ça montre bien qu'il y a de quoi distinguer. Et que donc, il nous faut monter de l'amour psychique à l'amour agapé. Et si nous avons parfois dans nos vies des crises de foi, mais c'est vrai, il y a des crises de foi, et heureusement, parce que le doute fait partie de la foi, je suis désolée, mais... Ou qu'on a envie de lui dire, enfin moi, il y a eu un moment, c'était tellement dur dans ma vie que je lui ai dit, écoute, c'est bon, tu me laisses tranquille un peu, parce que là, j'en ai trop soupé, quoi. C'est bon, là, hein, pendant quelques années, ciao, au revoir, hein, c'était bien, mais enfin, comme dirait Sainte Thérèse d'Avila, ouais, ben, je comprends que t'aies pas beaucoup d'amis, parce qu'il faut voir comment tu les traites. Bon. Et puis voilà. Et puis finalement, c'est comme la crise d'adolescence avec les parents. Alors, quand on était enfant, voilà, c'était des dieux. Puis d'un coup, on voit que c'est leur défaut, et qu'ils nous embêtent, et qu'ils nous empêchent de faire ce qu'on veut, etc. Ça fait partie, du processus de croissance. C'est normal. Tout processus de croissance, c'est celui-là. Qu'il soit biologique ou qu'il soit spirituel. Donc comment ? Voilà. Et fortifier l'homme intérieur, c'est ça. C'est fortifier cette permanence. J'ai fait un choix, j'y tiens. Je m'y tiens. Mais avant de le faire, il faut que je réfléchisse et que je prie. Et que je prenne conseil. 3 points très importants. Je réfléchis, je prends conseil, je prie, je fais le choix. Une fois que je fais le choix, je m'y tiens. Je m'y tiens. À moins que, parce qu'il y a aussi des processus d'étapes, que Dieu me dise, bon, t'as fait ce choix, c'est très bien. Au bout de 15 ans, maintenant, je te déplace de là et je te mets là. Mais là, c'est très clair en général. C'est très, très clair. Quand c'est des choix divins, c'est qu'en général, on n'a pas envie d'y aller. Donc, ça montre que... Je pourrais vous en raconter. Parce que j'avais vraiment pas envie d'y aller. Et j'ai compris 15 ans plus tard pourquoi j'avais pas envie d'y aller là où il m'attendait. Quoi. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est Dieu qui décide. Alors, c'est le forceps. Donc, il vous prend, mais par forceps. Quoi. Vous n'avez pas envie d'y aller. Puis vous y allez. Puis 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard, ah oui, ah ouais. J'ai souffert, mais il fallait que je traverse ça pour quand même continuer. Quoi. Sinon, je marinais dans un truc où tout roule. Quoi. Bon, on va s'arrêter là. On va faire quelques exercices. J'ai encore pas causé presque une heure. Mon Dieu.
T'as pas causé, tu nous as nourris. Ouais.
J'ai beaucoup aimé cette métaphore de la métamorphose.
Imago.
Ouais. Parce que quand les gens cheminent, par exemple, vers un engagement, il y a une période de très grande déstabilisation, de très grande fragilité, qui est exactement la même que celle qui se passe au moment de la métamorphose. C'est-à-dire, c'est le moment où l'animal, l'insecte ne peut pas encore voler, par exemple, il ne peut pas avoir sa défense, il va se faire manger par des oiseaux, par des choses comme ça. Et je trouve cette image assez intéressante dans la réalité de ce que l'on éprouve sur le chemin.
Tu avais dit que tu nous donnerais des précisions sur ce livre, alors.
Ah oui, merci. Alors, le livre, c'est Michel Fromaget. Alors, le titre est incroyable. La drachme perdue. Comme la drachme, comme si on avait perdu la drachme. Mais la drachme, c'est la troisième partie de l'homme. C'est génial comme titre. La drachme perdue. C'est un petit livre. Tout ce qu'il y a de plus vulgarisé. Mais je trouve magnifique. Quoi.
C'est un prêtre ?
Non, c'est un laïc. Il ne parle jamais de Dieu à aucun moment parce qu'il veut s'adresser à tout le monde.
Ah oui ?
Donc jamais. C'est un anthropologue, c'est un professeur d'université. Mais il n'y a pas une seule fois le mot Dieu là-dedans, à part que quand il cite les pères de l'Église de temps en temps. Quoi. Mais il fait tout un processus, en quelques chapitres comme ça, où il montre le drame de l'Occident. Mais pour lui, c'est un drame, c'est une catastrophe qui a perdu la drachme, qui a perdu l'esprit. Et il montre dans quelle situation l'homme a fait l'expérience de l'esprit, qu'il soit croyant, qu'il ne soit pas croyant. Comment peu à peu arriver à découvrir en soi ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair, ce qui est du psyché, de l'homme extérieur, de l'homme qui s'en va en ruine.
C'est facile à lire.
C'est très facile à lire. Ça se lit comme ça, comme du bon pain.
Je pense à quelqu'un qui est malade.
Oui. Non, c'est très facile. Et le dernier chapitre, c'est magnifique. Il parle à un moment donné de la vieillesse, de la... Quand on est qu'on n'a plus toutes ses forces, ça c'est magnifique. Et il parle de l'amour humain, voilà. Et il montre toute la différence entre l'amour passionnel, donc psychique, et le vrai amour humain, quoi. Voilà. Et là c'est beau, quoi. Vraiment très beau. C'est un très bon.
Comment est-ce que tu as débeauté ça?
C'est quelqu'un qui me l'a passé il y a moins 6 ou 7 ans. Parce qu'elle l'avait découvert en écoutant une conférence et qu'il a fait venir dans son centre. Et moi, c'était un centre où j'allais faire des enseignements. Enfin bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, après, j'ai vu citer dans la thèse de Jean Bobok. Donc, je me suis dit, bon, c'est du sérieux. Ceci dit, Jean Bobok ne cite pas ce livre-là, il en cite un autre. Mais enfin, bon, il cite le même auteur, quoi. Hein, parce qu'il cite quelque chose d'un peu plus pointu, d'un peu plus... Alors que celui-là, c'est un livre de vulgarisation pour tout le monde, quoi. Ceci étant dit, j'aurais quelques réserves, moi, mais bon, vous comprenez bien, rien n'est parfait d'ici-bas, donc on ne va pas pointer les trois petits trucs qui sont un peu... Bon, mais vous allez vous en rendre compte tout seul, je veux dire. C'est pas... Bon, voilà.
Et tu avais dit aussi, comment montre-t-on que la grâce de l'Esprit-Saint commande tout ?
Oui, hein ? Oui. Alors, comment on le perçoit ? Moi, je pense que ça serait bien qu'on se donne les uns aux autres des exemples, parce qu'on en a tous.
La grâce de l'Esprit-Saint.
Comment c'est elle qui commande tout. C'est-à-dire comment l'Esprit Saint va venir insuffler en toi. Si tu es bien disposé, si tu acceptes d'être bien disposé, comment il va te montrer que ce que tu as dit ou ce que tu as fait, ce n'est pas juste. Par exemple, je dis n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, un exemple. Je fais un petit topo et puis quelqu'un vient me voir à la fin en me disant vraiment, ça c'était nul, vraiment nul. C'était absolument nul, mais puis c'est, mais en colère contre moi et tout. Comment je réagis? Donc est-ce que je vais réagir selon la chair ou je vais réagir selon l'esprit? Si je suis selon la chair, je vais dire, je vais. Surtout quand on est un peu. Quand on est un peu battant comme moi, là, au boum, on renvoie tout de suite. Bon, et puis finalement, la personne ne reviendra jamais plus. Si on arrive à réagir selon l'esprit, eh bien, on écoute. Et intérieurement, il y a une voix qui dit, qui est la voix de l'esprit. Cette personne, elle a le droit de ressentir et de dire ce qu'elle veut au sujet de ce qu'elle vient de voir. Je lui donne le droit de dire tout ce qu'elle veut. C'est un droit. Que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, c'est pas mon problème. Moi, ce qu'elle me demande, c'est d'écouter. C'est tout. Alors après, je réponds pas, ça c'est autre chose. Mais si je suis dans cet état d'esprit, déjà, c'est complètement différent. Mais vous imaginez, pour être dans cet état d'esprit, dans un truc qui vous surprend, il faut avoir fait le travail déjà avant, quoi. Hein. Parce que là, c'est trop tard. Sur le moment, c'est forcé qu'on déraille. Quoi.
Mais ça, c'est une base de l'écoute psychologique aussi. D'accepter ce que quelqu'un vous dit. Enfin, moi, je...
Oui.
C'est pas forcément spirituel.
Oui, bien sûr que tout le monde peut le... Bien sûr. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour le mettre en œuvre de manière concrète et pour être dans une parfaite bienveillance, sans jugement vis-à-vis de la personne, là, si on n'a pas l'esprit, je ne sais pas si on y arrive. C'est ça que je veux dire, tu vois. C'est-à-dire que si on se connecte vraiment de manière, j'ai envie de dire, permanente, dans cette permanence dont on a parlé, dans cette permanence à l'esprit, si on se connecte de manière permanente, dans les choses qui nous surprennent, de la chose qui n'était pas du tout prévue et puis qui vous... Eh bien, on arrive, parce qu'on est en permanence connecté, on arrive à faire face à ça, non seulement à être dans l'écoute, mais à être dans la bienveillance. Et la personne, elle se sent non seulement entendue, mais elle se sent aimée. Et là, on est dans quelque chose de plus. Et elle se sent respectée. Et elle a senti qu'il n'y a pas de jugement et qu'on n'a pas été là en train de l'écouter. Bon, quand est-ce que tu as fini Et que toutes ces pensées négatives qu'on peut avoir, tout en écoutant, que tout ça soit balayé, parce que c'est l'esprit divin qui vient nous, parce qu'on sait, on se connecte.
Et là, Sandrine, tu ne crois pas qu'il y a un petit plus par rapport à l'écoute psychologique?
Bah bien sûr, mais bien sûr qu'il y a pas un petit plus, il y a beaucoup de plus.
Plusieurs formes.
Mais bien sûr, mais bien sûr.
Suivant les expériences.
Bien sûr. Et il y a aussi, je pense, là où c'est, pour moi, ce n'est pas que de l'écoute psychologique, c'est que si tu as fait le chemin ascétique que demande l'Église, et dans lequel nous sommes tous en route, hein, bien évidemment, on ne peut pas dire qu'on y est arrivé, mais c'est de dire, cette personne, elle me dit ça, mais elle a raison, parce qu'elle est supérieure à moi. Parce que je suis le premier des pécheurs, je le dis toutes les liturgies. Alors là, on a encore monté d'un cran. Oui.
Qui est que ce que Dieu veut me dire à travers cette.
Absolument. Je ne sais pas si c'est un autre cran. À mon avis, c'est.
Et de lui dire merci Seigneur.
Ouais. Merci de me l'avoir envoyé. Merci de me l'avoir envoyé.
Là, on va dans.
Absolument. Voilà. Mais ça, en général, on se le dit après. C'est-à-dire que sur le moment, c'est pour ça que c'est des étapes. C'est des étapes dans le. On peut l'avoir en instantané, ouais. Je pense que les saints l'ont en instantané.
Voilà,
ouais, les saints l'ont en instantané.
Et souvent, Dieu nous parle la nuit.
Oui.
À propos de la relation qu'on a avec les autres.
Oui.
Ça, c'est pas psychologique.
C'est-à-dire que la nuit, c'est le temps du repos, c'est le temps où les choses sont déposées, où on dépose nos...
Il y a des lumières.
Oui, il y a absolument. Bah, tous les ascètes le disent. Hein. La nuit, c'est pour ça qu'ils prient la nuit. Hein. C'est que la nuit, il y a quelque chose de particulier. C'est pour ça qu'on fait des grandes agrippinies. Enfin, la nuit, il y a vraiment une grâce particulière.
Les rêves et les songes, pardon. Les rêves et les songes, là, dans tout ça, ils se situent.
Oh là là. Là, moi, je suis pas douée dans ces trucs-là. Je peux pas lire. Je sais pas. Alors, oui. Alors, vous savez que il y a eu au mois d'octobre un colloque sur vie spirituelle et vie psychologique à Paris, là, à la Serre. Enfin, c'était à côté de Paris, à Fontainebleau, je pense. Et il y avait un prêtre qui s'appelle le père Basile Termos, qui a fait une intervention dans ce colloque, un prêtre grec. Et ce prêtre, il est prêtre, donc il a une paroisse, il est dans l'église depuis longtemps, etc. Il est aussi, je ne sais pas s'il est psychologue ou psychanalyste, enfin, il est aussi très érudit dans cette science-là, et il s'occupe beaucoup d'enfants. Il reçoit des enfants, voilà, qui sont un peu maltraités, etc. Enfin, en tout cas, qui ont besoin d'une aide à ce niveau-là. Et lui nous disait qu'au niveau des rêves, il parlait des rêves, il disait, il y a trois sortes de rêves, des rêves qui viennent du démon, des rêves qui viennent de nous, et des rêves qui viennent de Dieu, qui sont donc des songes. Et il dit, ceux qui viennent de Dieu, des songes, c'est très, 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 très rare. Voilà, c'est extrêmement rare. Voilà. Et il disait, si jamais on croit, vous savez, c'est un peu comme les visions, on a des visions. Si jamais on croit que c'est un rêve qui vient de Dieu, on va prendre conseil. Voilà, parce que très vite, ça va se... Voilà. Donc, moi aussi, je me méfie un peu de ces trucs-là.
D'ailleurs, c'est la première des choses qui nous est indiquée par les pères spirituels, c'est de dire méfie-toi. Méfie-toi.
Méfie-toi, oui. Quand oui.
On reçoit ce genre de grâce, méfie-toi.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
Par contre, notre conscience, tout simplement, notre mauvaise conscience, en fait,
oui.
On peut l'entendre comme la voix du ciel aussi.
Oui, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que c'est tout notre appareil psychique dont il faut discerner. Plusieurs éléments. C'est-à-dire l'élément de ce qu'on a appris dans l'enfance. C'est pas bien, fais pas ça. Donc toutes les injonctions. Culture, l'éducation. Donc dans cette mauvaise conscience, il peut y avoir ça. Maintenant, pour moi, la mauvaise conscience, pour moi, hein, et ça on pourrait en discuter, finalement c'est que ça. Pourquoi ? Parce que ce qui est de l'ordre divin pour dire. Ça ne va pas, ce n'est pas de la mauvaise conscience. Ça ne s'appelle pas mauvaise conscience. Oui, d'accord. Pour moi, ça s'appellerait... C'est plus du domaine du repentir. Oui. C'est-à-dire que moi, je distingue très fort la mauvaise conscience et le repentir parce que... Non, ce n'est pas que ce n'est pas un bon terme. C'est que justement, c'est un très bon terme. C'est un très bon terme, mais qu'il faut placer au bon endroit. Là, on est dans l'appareil psychique.
Oui.
Alors que le repentir, à mon avis, il est plus... Voilà. C'est-à-dire que c'est tout le problème entre la culpabilité,
la fausse culpabilité,
voilà. Et vous savez très bien que normalement, nous orthodoxes, on doit jamais être dans la culpabilité. Il faut bien distinguer entre, excusez-moi le terme, être coupable et être dans la culpabilité. Nous sommes coupables dans le sens entre guillemets, dans le sens qu'on est responsable de ce qu'on a fait. Mais on n'est pas dans la culpabilité, parce que ça, c'est le démon qui l'entretient. C'est le démon, c'est démoniaque. Il nous faut purifier ce sentiment d'être coupable en accueillant la grâce de Dieu dans une responsabilité, dans une liberté qui a été mal orientée, et en ressaisissant tout ça par l'Esprit-Saint, et en mettant tout ça dans le cœur du Christ. Voilà. Et puis c'est tout, on ne s'en occupe plus. Quand Dieu pardonne, il pardonne, c'est terminé. Maintenant, on sait que tous les ascètes passent leur vie à pleurer leurs péchés passés. Mais ce n'est pas de la culpabilité, c'est autre chose. C'est une manière, et d'ailleurs, plus on fait des péchés graves, plus ça montre qu'on n'avait aucune conscience de notre péché au moment où on les a faits, les péchés graves. Parce que plus on a conscience du péché, moins on fait de péchés graves. Et quand on arrive beaucoup plus tard et qu'on réalise qu'est-ce que c'est le péché, et qu'on se remémore des péchés extrêmement graves qu'on a pu commettre. Donc le grave, c'est le meurtre, le viol, et le c'est les trois là. Le meurtre, le viol, et l'idolâtrie. Enfin, le meurtre, tout ce qui est viol, inceste, enfin tous ces trucs-là, l'adultère, et puis l'idolâtrie. Bon, c'est les trois les plus graves. Bon. Mais on arrive à un moment donné, et puis puis on prend conscience, donc c'est toute une attiration, on ne prend pas conscience tout de suite. À quel point, eh ben, à quel point on est pécheur, que c'est notre nature, c'est notre nature déchue. Et comme on arrive à un certain degré de maturation et qu'effectivement on ne fait plus de, vraiment de péché, je veux dire, je ne sais pas qu'est-ce que Père Placide avait à confesser. Vous voyez ce que je veux dire ?
Bon.
Ou Père Victor, ou Père Sophronie, qu'est-ce qu'ils pouvaient confesser ? Ils n'avaient rien à confesser. Et pourtant, ils confessaient. Voilà. Et donc, vous sentez, c'est parce que, d'abord, c'est parce que le moindre petit truc, une petite parole désagréable à un frère, le moindre petit truc, ça prend une proportion. Voilà. Et la moindre pensée, hein, et Saint-Sylvain le dit très bien, hein, que pour une seule pensée, il a mis des années à s'en remettre. Et donc, ça montre bien voilà, qu'on arrive à une finesse extraordinaire. Mais ça montre aussi qu'on a besoin de se remémorer les fautes graves pour rester, puisque justement, on ne fait plus de choses très graves, pour rester dans l'état d'humilité et de comprendre qu'on est le premier pécheur, plus pécheur que les autres. Sinon, on oublie. C'est tout le problème de l'oubli. Et si on aime à répéter cette prière, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur », si on aime à la répéter, ceux qui aiment à la répéter, parce que ce n'est peut-être pas forcément fait pour tout le monde, eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, oui, c'est Père Macaire, là, du Moitos, qui dit, qui montre que on n'est pas nécessairement en état de péché, mais on est pécheur. Voilà. Et c'est pour se rappeler ça. Hein ?
Je dis que ça, c'est difficile à intégrer.
Ben oui.
C'est quelque chose qui m'était difficile.
Mais c'est très difficile, bien sûr, c'est difficile.
Quand je suis arrivée dans l'église.
Ben, c'est sûr, c'est très difficile. Et ça, c'est toute une question de maturation. Et enfin, moi, je suis convaincue que avant 50 ans, je ne suis pas sûre qu'on y arrive. Quoi, parce qu'il y a toute une maturation aussi biologique.
Sauf par grâce.
Sauf par grâce, bien sûr. Enfin, quand je dis je ne suis pas sûre, j'en sais rien, je ne suis pas à la place des autres. Mais il y a une maturation, on entre dans quelque chose de plus fin, qui est plus. C'est un long, long, long chemin, très long chemin. Et le jour où on réalise qu'est-ce que c'est les passions qu'on porte, alors qu'on ne les met pas en action, mais on les porte, on sait qu'on les a, même si on ne les met pas en action. Et bien ça, c'est ça qui fait qu'on sait qu'on est pécheur. Mais on n'est pas coupable. On n'est pas coupable. C'est toute la différence. Et c'est fondamental. Ça, je vous en supplie, il faut absolument intégrer aussi ça. Quoi. Bon, alors, si on peut, on fait une petite pause et on se fait des petits exercices.
Exercice.